Chapitre 3. Au terme d'un trajet de 150 km depuis Houston au volant de son Rhino GX, suivi par Rupert Baldwin et Vince Penn dans leur Jeep Wrangler, Egon Godfrey arrive à la gare routière de Beaumont peu avant 7h du matin. Les trois hommes n'ont pas encore visionné les images enregistrées par le système de surveillance. Le grand ordonnateur, persuadé que la multiplication des obstacles vient enrichir le scénario, a veillé à ce que la NSA archive les enregistrements des caméras uniquement dans les grandes métropoles et pas dans les villes de moins de 150 000 habitants. Beaumont ne compte que 120 000 administrés, et si les autochtones souhaitent un jour trouver leur place dans le grand rêve orwellien, ils seraient bien avisés de concevoir des enfants à un rythme plus soutenu. Godfrey, Baldwin et Penn sont accueillis par Léon Fettwiller, un agent du FBI doté d'une personnalité aussi marquante qu'un bol de glace à la vanille. D'après ce que croit savoir Egon, Fettwiller ne fait pas partie des Arcadiens. Il lui a juste été demandé de visionner les images puisqu'il se trouvait sur place. Fettwiller est accompagné par la responsable de la gare routière, une femme si falote que Fettwiller brille à côté d'elle. Godfrey ne prend pas même la peine de retenir son nom. Il ne fait aucun doute à ses yeux qu'il s'agit d'une simple figurante. La responsable de la gare dispose dans son bureau d'un vieil appareil qui conserve les images enregistrées 7 jours seulement, sans possibilité de les transférer sur une autre machine. Les explications de la femme sont aussi ennuyeuses qu'interminables. La lecture des conditions de vente d'une police d'assurance ne serait pas moins distrayante. Lorsqu'elle se décide enfin à diffuser l'extrait de 4 secondes enregistré la veille à 17h05, Godfrey découvre des images dignes d'un film porno tourné en Super 8 dans les années 1950 avec une lampe de chevet en guise d'éclairage. Godfrey, Rupert et Vince voient une femme de la taille de Claire Hawke descendre d'un bus. Elle a un fichu sur la tête et la suit un homme coiffé d'un Stetson qui pourrait être Ansel.
« Et qui sont ces gens ?»
s'enquiert la responsable de la gare routière. « Des criminels, » répond Godfrey en visionnant à nouveau le court extrait.
« De quoi sont-ils coupables ?»«
D'avoir commis des délits. »
« Nous ne sommes pas habilités à vous en révéler davantage, » insiste Fettwiller, au cas où la femme n'aurait pas compris.
Des images prises par une autre caméra montrent le même couple monté dans un Uber à la sortie du terminal. Mais la caméra les filme uniquement de dos.
« Tu crois que ce sont eux ?» demande Godfrey à Rupert Baldwin.
Ce dernier triture sa cravate mexicaine en se dandinant d'un pied sur l'autre dans ses hush puppies.
« Je serais bien infoutu de le dire. »«
Moi aussi !»
approuve Vince.
« Difficile à dire. La vidéo est mauvaise et l'éclairage... »«
Je peux vous assurer qu'il s'agit bien d'eux !»
le coupe Fettwiller, évitant à Vince Penn la conclusion de ses explications fumeuses.
« Le chauffeur du Uber pourra vous le confirmer. »«
Où est-il ? » veut savoir Godfrey.
« Il nous attend sur le parking d'en face. »
L'intéressé patiente effectivement à côté d'un GMC terrain SLE blanc. Le grand ordonnateur a trouvé le moyen de le doter d'une personnalité plus affirmée que Fettwiller et la responsable de la gare. Tucker Tredmont, âgé d'une petite trentaine d'années, mesure moins d'1,70 m et pèse plus de 100 kilos. Il porte des Santiago, un jean trop large et un polo bleu ciel qui moule sa poitrine débordante. Ses cheveux bruns sont tirés en arrière, et il est doté d'un visage poupin imberbe troué de 2 yeux verts. Fettwiller tire d'une enveloppe Kraft des photos 18-24 d'Ansel et Claire.
« Ouais, c'est bien ce type-là avec sa greluche. Ils m'ont contacté 1 heure avant d'arriver. »«
Où les avez-vous conduits ?» demande Godfrey.
« Le plus simple, c'est encore que je vous y emmène. » »«
Nous avons nos propres véhicules. »
« À cette heure-ci, je devrais bosser. Je suis pas un putain de millionnaire.
Je ne suis pas client chez Uber.
Je travaille aussi à mon compte. Je suis pas leur boy. »
La joute se poursuit pendant une trentaine de secondes.
jusqu'à ce que Godfrey y mette un terme en avertissant Tredmont qu'il se rend coupable d'entrave à la justice. Il préférerait de loin écrabouiller la tête de cet abruti avec sa matraque télescopique. La menace ne trouble guère le chauffeur qui s'entête, et Godfrey finit par se dire que le plus simple est encore de payer l'autre imbécile. De toute façon, Tredmont n'existe pas vraiment. Pas plus que l'argent de sa course. Le grand ordonnateur a décidé de faire tourner Egon en bourrique, rien d'autre. Combien demandez-vous pour nous montrer le chemin?
121 $ et 50 cents, répond le chauffeur.
Vous plaisantez. Je les ai pas conduits au coin de la rue. Bien décidé à ne pas donner à son interlocuteur un centime de plus que la somme exigée, Godfrey sort 6 billets de 20 de son portefeuille avant de s'apercevoir qu'il n'a pas de monnaie. Rupert y ajoute 1 $ de sa poche et Vince fournit les 50 cents manquants. Godfrey se tourne vers Fettwiller.
On se débrouillera pour la suite. Merci de votre aide.
Je comptais vous accompagner. Ce ne sera pas nécessaire.
Fettwiller salue les trois hommes et disparaît.
On pourrait s'imaginer qu'il n'a jamais existé.
Quelques instants plus tard, Godfrey quitte le parking à la suite du GMC, suivi par la Jeep de Rupert et Vince. Il a parcouru quelques dizaines de mètres à peine lorsque son portable sonne. Le nom de sa supérieure, la juge Sheila Draper Cruxton, s'affiche à l'écran. Leur conversation de la veille était si plaisante qu'il se réjouit de cet appel. Mais il redescend très vite sur terre en l'entendant lui passer un savon à cause du fiasco des écuries Lundgren. Janice Dern avait de graves problèmes psychologiques. Godfrey a eu le tort de ne pas s'en apercevoir à temps. Au regard du danger qu'elle faisait courir à la Révolution, il aurait dû la conduire dans un coin tranquille et lui coller une balle dans la tête, blablabla. La juge avertit Godfrey que cet échec aura de graves conséquences pour lui, surtout s'il ne parvient pas à mettre la main au plus vite sur Hansel et Claire Hawke.
« Vous baissiez cette conne ?»
demande-t-elle en guise de conclusion.
« Quelle conne ?»«
De quelle conne parle-t-on, à votre avis ?»
s'énerve Draper Cruxton.
« Janice, bien sûr. C'est pour ça que vous n'avez rien vu? Parce que l'amour rend aveugle ?»«
Pas du tout, madame la juge. Je ne fonctionne pas comme ça. »
« Je vous conseille de mieux maîtriser votre testostérone, Godfrey. Contentez-vous de remplir votre mission !»
siffle-t-elle avant de raccrocher. Egon se demande bien à quoi joue le grand ordonnateur en lui glissant autant de peaux de banane sous les semelles. Il éprouve si fort l'envie de matraquer ses semblables depuis quelque temps, à commencer par Vince Penn et Tredmont. Le savon de la juge lui donne une petite idée de ce qu'attend de lui le grand ordonnateur. Il est temps de laisser au vestiaire ses réticences. La violence est encore la solution la plus adaptée. La nuit précédente, il a rêvé qu'il abattait Hansel Hawke et tranchait la gorge de Claire. À bien y réfléchir, c'est la façon qu'a trouvé le grand ordonnateur de lui indiquer la voie.